Musique et prière, Vincent Nemo.
Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. C'est Sainte Geneviève, alors âgée de 28 ans, qui s'exprime ainsi. Nous sommes en 451 et les Huns qui menacent Lutèce, emmenés par le féroce Attila, éviteront la ville. Juste après, Attila, ayant à peine pris Orléans, en sera bouté par les armées d'Aétius, généralissime de l'Empire d'Occident, qui perdra la bataille décisive des champs cataloniques à quelques kilomètres de Troie. 14 ans plus tard, en 465, alors que l'Empire romain d'Occident craque de partout, c'est une guerre civile qui menace Lutèce. Une guerre qui oppose les partisans de Rome aux partisans des Francs, emmenés par Childéric et qui envahissent peu à peu la Gaule du Nord. Geneviève négociera avec les Francs pour que la ville ne soit pas envahie. Les Francs vont s'installer dans un siège autour de Lutèce qui va durer 10 ans. Lutèce qui est donc tenue par l'Empire romain. Geneviève est clairvoyante. Elle comprend que le glas a sonné pour l'Empire romain et que les Francs représentent l'occasion de sauver la chrétienté. Elle voit aussi monter l'arianisme, cette hérésie qui gagne les autres protagonistes des conflits en Gaule, les Vandales, les Visigoths et les Burgondes. Durant ces 10 années de siège de Lutèce, Geneviève parvient à ravitailler le peuple en envoyant des bateaux remonter la Seine. On y connaît même un miracle, un jour de tempête où les bateaux auraient dû sombrer et reviennent intacts. Cet épisode miraculeux donnera sa devise à Paris, « Flutuat nec mergitur », il est battu par les flots mais ne sombre pas. Clovis, fils de Childéric, emportera la victoire sur le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Geneviève s'allie alors à Clovis et lui ouvre la ville à la condition qu'il se convertisse au christianisme. Clovis et ses troupes sont alors baptisés et entrent dans Lutèce. Sont alors réconciliés les peuples francs et gallo-romains. C'est à cette époque que Lutèce perd son nom latin et que l'on désigne cette ville du nom de ses habitants, les Parisii. Le nom de Paris ne sera définitivement adopté qu'au IXe siècle. En attendant, la cité des Parisii devient la capitale du royaume en 508. Geneviève y aura fait bâtir une chapelle sur le tombeau de Saint-Denis, premier évêque de Lutèce, et convaincra Clovis d'ériger une église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul sur le Mons Lucotitius, l'actuelle montagne Sainte-Geneviève. Geneviève mourra le 3 janvier 512 à l'âge de 89 ans à l'Ermitage de Paris. Elle sera inhumée dans l'église de l'Ermitage aux côtés de Clovis et plus tard la rejoindra la reine Clotilde, épouse de Clovis. Le clocher de cette église, connu sous le nom de Tour Clovis, est encore visible dans l'enceinte du lycée Henri IV à Paris sur la montagne Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève est plus que la patronne de Paris, elle est considérée comme la protectrice. Au cours des siècles, les Parisiens prirent l'habitude, chaque fois qu'une inondation, une sécheresse, une guerre ou une épidémie les menaçait, de promener la chasse de la Sainte. La veille de la procession, les Parisiens jeûnaient et le jour venu, les cloches de toutes les églises sonnaient. Le cortège, composé des ordres religieux, de l'évêque de Paris, du Parlement, de la Cour des comptes et des autres grands corps constitués, marchait depuis la montagne Sainte-Geneviève jusqu'à Notre-Dame de Paris. Puis, après une grand-messe, la procession faisait le trajet retour. Sainte-Geneviève, c'est aussi la patronne du diocèse de Nanterre et de la gendarmerie nationale française depuis le décret du 18 mai 1962 signé par le pape Saint Jean XXIII. Sainte Geneviève a inspiré de nombreux artistes, peintres, écrivains, poètes, sculpteurs, mais aussi des compositeurs. Marin Marais a été découvert par le grand public en 1991 grâce au film magistral d'Alain Corneau qui met en scène les Depardieu, fils et père, qui incarnent Marin, jeune et vieux, mais aussi Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Monsieur de Sainte-Colombe. Ce Monsieur de Sainte-Colombe qui sera le fugace professeur de viol de Marin Marais, Monsieur de Sainte-Colombe malheureux, jaloux et aigri. Marin Marais a alors 16 ans lorsqu'il est l'élève de Monsieur de Sainte-Colombe. Il sera ensuite instrumentiste dans l'orchestre de l'Académie royale de musique, ancêtre de l'opéra, créé et dirigé par Jean-Baptiste Lully. Il restera 40 ans musicien de l'opéra jusqu'à en être le chef d'orchestre, tout en cumulant d'autres charges, dont celle de joueur de viol dans la musique de la chambre du roi. Marin Marais se marie en 1676 et aurait eu 19 enfants avec sa femme Catherine d'Amicourt. À partir de 1685, il se met à composer et emporte peu à peu de grands succès. Nous allons entendre une partie de cette célèbre pièce de Marin Marais qui s'intitule « Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris ». Elle a servi de bande originale au film d'Alain Corneau et est interprétée par Rolf Lislevand, Jordi Savall, Fabio Biondi et Pierre Antaille sur les instruments d'époque, évidemment. En écoutant, on peut songer au danger des Huns, au siège des Francs, mais surtout à l'obstination de la Sainte qui sauvera Paris et son pays. En grec ancien, épiphaneia signifie manifestation dans le sens apparition. Vous le savez, l'épiphanie dans l'Église catholique, c'est le jour de la manifestation du Christ au monde entier, manifestation symbolisée par la visite des rois mages venus de loin pour s'incliner devant l'enfant Jésus. Cette fête chrétienne plongerait sans doute ses racines dans des fêtes païennes préexistantes au christianisme. On peut penser que cette fête célébrait la lumière et l'allongement des jours qui gagnent sur la nuit après la nuit la plus longue du solstice d'hiver, qu'on appelait les Saturnales sous l'Empire romain. Cela expliquerait la tradition d'ailleurs de la galette, ronde, dorée, comme le soleil. Quant à la fève, elle viendrait aussi de cette tradition païenne de la Rome antique qui inversait les rôles entre les maîtres et les esclaves, ces derniers ayant tiré la fève devenant roi d'un jour. C'est depuis le XIVe siècle qu'on partage la galette des rois en France. La tradition veut d'ailleurs que l'on réserve la part du bon Dieu, ou part de la Vierge, ou encore part du pauvre, au premier pauvre qui se présenterait au logis. Je ne résiste pas à l'envie de vous livrer ce résultat d'un sondage OpinionWay réalisé en 2014 en France, qui révèle que 97% des Français fêtent l'épiphanie avec ses précisions croustillantes. 70% mangent une galette à la frangipane, 11% un gâteau des rois, principalement dans l'extrême sud, et 8% une galette des rois à la pomme, 9% en consomment plus de 5, et 68% trichent pour donner la fève aux plus jeunes. C'est dans l'évangile de saint Matthieu que l'on apprend la visite des rois mages, des savants venus d'Orient. On ne sait ni leur nombre ni leur nom, mais la tradition, vous le savez, les limitera à trois et les nommera Gaspard, Melchior et Balthazar. La marche des rois est un chant de Noël d'origine provençale que Georges Bizet a tant rendu célèbre en le logeant dans son Arlésienne, cette musique de scène dont le texte est écrit par Alphonse Daudet. Mais les paroles de la marche des rois, elles, sont attribuées à l'abbé Joseph-François Domergue, curé d'Aramon dans le Gard entre 1724 et 1728. Quant à la mélodie, elle pourrait être la reprise d'une marche militaire, la marche de Turenne, que certains attribuent à Jean-Baptiste Lully. Quoi qu'il en soit, de bon matin j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage, de bon matin j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Et puis, une fois n'est pas coutume, ce sont ici les compagnons de la chanson qui enregistrent ce disque en 1965.
De bon matin j'ai rencontré le train de trois le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec tant de petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois voix modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, trois voix de vous parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré